Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On n'aura jamais un bond aussi intense, en si peu de temps, se développer autant de compétences, et c'est vraiment lié au développement cérébral sur cette période.
Il y a beaucoup de questions qui se posent pour lui, savoir lui apporter les clés pour comprendre son environnement, prendre confiance en lui, pour qu'il commence à être un peu plus autonome. Je trouve passionnant de passer vraiment de cette rentrée un peu dans le social avec lui, quoi, lui donner les clés pour comprendre son monde.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Chloé ?
Aujourd'hui, je voulais venir vous voir pour vous parler des 1000 premiers jours de l'enfant, du lien qui se crée avec son enfant, sur même les périodes de grossesse et les premiers mois de vie.
Mmh. Combien vous avez d'enfants Chloé ?
J'ai deux enfants, j'ai un fils qui a 2 ans et demi et une petite fille qui a 5 mois.
Alors, comment ça s'est passé pour chacun de vos enfants ?
Ça s'est bien passé si on reprend les périodes de grossesse déjà. Moi, ça a été une des périodes très heureuses. J'ai aimé être enceinte. J'ai eu des grossesses faciles, sans complications pour moi ou pour mes enfants. J'ai même trouvé que c'était des périodes assez fascinantes à vivre. C'est moi les difficultés que j'ai eues liées à ça, ça a plutôt été pour avoir mes grossesses. J'ai eu un parcours de PMA pour mon premier enfant et j'ai eu 2 fausses couches avant chacun de mes enfants. Donc je dirais que j'ai eu des grossesses sans problème, sans aucune complication et très heureuse. Et s'il faut aborder un peu les termes du stress qu'on peut avoir pendant la grossesse, je dirais que moi ça a plutôt été les premiers mois qui ont été plus une période d'attente où il n'y avait pas de projection immédiate dans le fait d'avoir un enfant. Le jour où j'apprenais que j'étais enceinte, c'était pas pour moi synonyme d'un enfant 9 mois plus tard. Donc il y a eu, je dirais, un peu ce qui est quand même une forme de stress pendant la grossesse, sans que ça m'empêche après de profiter, une fois que j'étais rassurée, de mes grossesses, parce qu'à nouveau ça a été des périodes qui pour moi ont été très heureuses et je n'ai pas ressenti chez mes enfants, puisqu'il y en a un que j'ai eu avec un parcours de PMA et l'autre non, de différence dans mon besoin de protection de l'enfant à sa naissance ou dans la façon de créer le lien, que ça soit en fin de grossesse ou les premiers jours de vie. Ils ont été vraiment identiques pour moi, quel que soit le parcours que j'ai eu pour les avoir.
Du coup, pour vous, Chloé, il y avait un lien entre chacune de ces fausses couches et du coup, ce système de protection que vous avez mis en place durant les premiers mois de la grossesse ?
Je pense, c'est assez inconscient, mais disons que la première fois qu'on tombe enceinte, c'est très facile et on se projette assez vite, on est heureux. Et puis bon, bah les choses arrivent, ça arrive de perdre un enfant, en tout cas qu'une grossesse s'arrête. Et donc je dirais que je pense que les fois d'après, et d'autant plus parce que le parcours a été long pour cette première grossesse, avec des montagnes russes un peu émotionnelles, il y a forcément un peu une protection qui se met en place où je dirais que tout est fait, enfin moi je faisais tout pour que ça fonctionne. Je faisais attention à mon corps, attention à ma fatigue, attention à tout pour accueillir cette grossesse, sans forcément trop vouloir me projeter pour pas avoir des déceptions qui sont là évidemment si ça marche pas, mais en tout cas pour laisser la nature, je dirais, plutôt s'installer, faire son travail. Et pour moi, vraiment, j'ai senti qu'il y avait différents stades de création un peu de lien avec ce futur bébé, et que les premiers mois, c'est vraiment la nature fait son travail. On est là, on attend, on fait tout pour que ça fonctionne, mais on attend. Et après, au cours de la grossesse, et d'autant plus en fin de grossesse, quand il y a une connexion, moi j'ai trouvé, qui se fait avec son bébé, on a des coups, on arrive à le faire réagir à une caresse sur le ventre, un morceau de chocolat, enfin, il y a une connexion qui se fait. Et là, j'ai trouvé que c'était merveilleux, et que je commençais à me projeter dans le fait que je portais un enfant qui allait voir le jour. Mais ces premiers mois de grossesse, pour moi, étaient beaucoup plus de l'ordre du... Oui, quasi du biologique, quoi. On laisse la nature se faire, et puis après intervient le lien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'entre les dernières semaines de grossesse et les premières semaines de vie, il y a beaucoup de similitudes. On rentre dans l'instinctif juste avant la grossesse, juste avant l'accouchement, pardon, où moi, j'ai eu cette impression de revenir vraiment à quelque chose de très instinctif dans ma vie, dans ma relation à ce futur bébé, et qu'on retrouve dans les premiers jours de vie, où en fin de compte, les besoins qui se manifestent sont assez primaires. Et puis nous, en tant que jeunes parents, enfin moi, en tant que jeune mère, c'est à l'instinct qu'on fonctionne. On n'a pas les clés, le bébé ne les a pas non plus, et on apprend vraiment à l'instinct.
À quel moment de votre grossesse vous avez commencé à vous projeter, voilà, à quel moment vous avez pu être rassurée quant à l'avenir de cette grossesse?
Je dirais au bout de 5 mois à peu près, 4 mois et demi, 5 mois, quand on commence à avoir les premiers coups, que ça devient un peu plus visible, à cette période-là.
Quand ça se concrétise un petit
quand
peu
ça se concrétise,
davantage. Ouais. Comment vos accouchements se sont passés?
Bien, les deux bien, sans complications particulières. J'ai même trouvé que c'était un genre de rite de passage, forcément très intense, mais très heureux, parce qu'il y a cet instant de découverte avec son bébé, ou en tout cas pour le premier accouchement, on devient un parent, qui est assez fou. Enfin, c'est des moments d'une intensité. Je pense que je suis pas certain que la vie de tous les jours puisse apporter ce niveau d'intensité facilement. Mais donc non, moi ça a été des moments que j'ai vécu avec, évidemment, les jours, semaines d'avant, un peu d'angoisse, peur que ça n'aille pas, qu'il y ait une complication pour le bébé, et peut-être aussi un sentiment de se dire que je serai plus la seule à pouvoir protéger ce bébé, que pendant la période de grossesse on est le seul à pouvoir vraiment, enfin je me sentais vraiment toute puissante à me dire que je pouvais le protéger. Et puis en le mettant au monde, et surtout pour mon premier enfant, j'ai vraiment eu comme un stress de me dire, en lui donnant la vie, je vais lui donner un peu un statut d'humain, de mortel, et je vais plus forcément être la seule à pouvoir assurer sa protection. Donc c'est ma deuxième grossesse, je me suis un peu détendue, heureusement j'ai moins eu ce sentiment. Mais ouais, des accouchements heureux, une période de rencontre que j'ai adorée, et effectivement cet instant de stress où on se dit, bah je vais devoir apprendre à composer avec l'environnement extérieur qui va s'interposer entre mon bébé et moi, quoi.
Durant votre grossesse, est-ce que vous aviez fait une préparation pour l'accouchement, la naissance, préparation à la parentalité?
J'ai fait des cours de préparation avec la sage-femme qui me suivait. J'ai pas ce qui était plus, j'ai trouvé pour en tout cas la première grossesse, apprendre ce qui va se passer, comprendre à quel moment il faut partir à la maternité, quels sont les bons gestes à avoir les premières semaines avec un nourrisson. En revanche, j'ai pas fait d'apnonomie ou d'autres préparations plus sur le lien avec le bébé. Je suis vraiment restée sur la préparation un peu plus classique. Après, je suis quelqu'un d'assez assez zen. Voilà, j'ai fait beaucoup de yoga, beaucoup d'activités où je trouvais un peu le temps de me recentrer sur moi. Quoi.
Oui, donc vous avez fait des choses.
Oui.
Pour vous.
Et je suis restée active jusqu'au bout. Ouais.
Et pour l'accouchement, est-ce que vous aviez choisi des modalités particulières ou... Dans quel contexte vous avez accouché? Ouais,
pas vraiment. J'avais pas de projet de naissance très préparé. Le but, c'était plutôt de me laisser porter. J'avais confiance dans les équipes de la maternité. Donc, dans les deux cas, ça a été des accouchements naturels, sans césarienne, sans cas d'urgence. Mais c'était pas non plus un accouchement que je voulais à tout prix, comme on peut le voir, accouchement dans l'eau ou autre. Enfin voilà, j'avais pas de projet de naissance particulièrement établi.
Et ensuite, alors, une fois votre aîné né, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé que les premières semaines, et là à nouveau je l'ai ressenti pour ma fille, il y avait vraiment le rôle de parent. J'ai trouvé que c'était vraiment très instinctif et très apporter le bagage de sécurité affective à son enfant. Ça j'ai trouvé que ça passait beaucoup par le toucher, le fait d'avoir son enfant dans les bras beaucoup, d'apprendre un peu à comprendre ses besoins. Alors, j'ai eu la chance d'avoir deux bébés qui étaient assez lisibles et qui n'ont pas eu de grosses difficultés à la naissance. J'ai pas eu des enfants qui ont pleuré pendant 3 mois sans s'arrêter. Je sais que ça arrive. Donc ça a été exténuant, bien sûr, comme tout nourrisson, mais des réponses à des besoins à nouveau, beaucoup dans l'instinct, besoins primaires. Et j'ai beaucoup aimé de voir cette évolution des premières semaines où on apprend à se connaître et on est un peu deux animaux encore très connectés, parce que même les premières semaines, je trouvais ça assez incongru d'appeler mes enfants par leur prénom. Pour moi, c'était encore une continuité de mon être et je continue à répondre à leurs besoins comme je le faisais pendant la grossesse, quoi. Et au bout de quelques mois, passer à des besoins autres qui se manifestent chez l'enfant, de contact visuel, de parole, les caresser sur la tête, sur les pieds, qui prennent un peu conscience de leur corps. Puis ça, c'est un besoin, je trouve, qui de connexion et d'interaction qui s'étale sur beaucoup de mois et qui prend beaucoup de forme. Et après, ce que je vois, là pour le coup avec mon fils, c'est après vers 12-18 mois, quand on commence à rentrer dans des besoins qui commencent à tendre vers de l'éducation, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent pour lui, de savoir lui apporter les clés pour comprendre son environnement, prendre confiance en lui, pour qu'il commence à être un peu plus autonome. C'est un autre défi que je découvre encore un peu, mais que je trouve passionnant de passer vraiment de cette phase des premières semaines très instinctives et d'évoluer vers quelque chose de plus, rentrer un peu dans le social avec lui, quoi, lui donner les clés pour comprendre son monde.
Est-ce que pour votre deuxième grossesse, donc pour la grossesse de votre fille, est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce que vous avez vécu autrement les choses?
Les premiers mois de la même façon, ce même... pas recul, mais en tout cas de dire bon, un peu en sursis les premiers mois, de se dire on va laisser la nature faire son travail. J'ai eu moins de stress en fin de grossesse lié au fait de devoir de plus être la seule à protéger mon bébé. Je pense que j'avais l'expérience du premier qui m'a un peu donné les clés et à moins appréhendé ce point-là. Sinon, j'ai retrouvé vraiment le même, moi, étonnement tout au cours de la grossesse, même fascination de se dire que c'est un corps qui fabrique un autre corps. Je trouve que c'est fascinant.
Chloé, est-ce que vous connaissez les circonstances de votre propre naissance?
Oui, je suis née, donc je suis la deuxième de ma fratrie. C'était une grossesse qui était désirée, qui a été eue sans trop de difficultés, et je suis née par césarienne, une césarienne qui était programmée. Donc c'est une arrivée qui était assez douce parce que programmée. Je sais qu'à l'époque on était séparés plus de sa mère lors d'une césarienne. Mais en tout cas, j'ai eu une arrivée sur Terre qui a été plutôt douce et dans un cadre affectif qui était très équilibré et très aimant.
Est-ce que vous savez comment on s'est occupé de vous dans les premières semaines, premiers mois de vie?
C'est ma mère principalement en congé maternité qui s'est occupée de moi les premières semaines, et après j'ai été confiée à une nourrice. Je devais avoir 4 mois à peu près, voilà, en fin de congé mat. Voilà, évidemment pas de souvenir moi direct de cette période-là, mais en tout cas je sais que ça s'était bien passé, que mes parents étaient en confiance avec le mode de garde, et j'ai eu une petite enfance heureuse.
Merci beaucoup. Chloé, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Johanna Smith. Bonjour Johanna Smith.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, enseignante et formatrice. Vous êtes spécialisée dans la clinique et la thérapie du trauma, de l'attachement et de la dissociation. Vous avez écrit de nombreux livres, le grand livre des 1000 premiers jours de vie, à la rencontre de son bébé intérieur, psychothérapie de la dissociation et du trauma, la puissance réparatrice de votre cerveau, la régulation des émotions dans la famille et l'application clinique de l'ICV dont vous nous parlerez sûrement tout à l'heure. De la grossesse aux 2 ans de l'enfant, les 1000 premiers jours sont une période extraordinaire et déterminante pour le bébé. Depuis quelques années, les scientifiques s'intéressent de plus en plus à cette période. Les neurosciences ont confirmé que les manques et difficultés précoces survenues de la gestation aux 3 premières années de vie ont un impact considérable sur la capacité ultérieure à réguler ses émotions et à acquérir une bonne estime de soi. Que se joue-t-il durant cette période cruciale? Comment le cerveau du bébé se développe-t-il? Quel impact de l'environnement dès la grossesse sur son développement et notamment du stress? Comment se construit l'attachement? Autant de questions que nous allons explorer avec vous, Johanna. Tout d'abord, Johanna, à partir de quand commence cette période des 1000 premiers jours?
Alors, les 1000 premiers jours, ça commence dès le début de la gestation et ça va à peu près jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, il y en a qui décalent un petit peu puis qui vont durer ça jusqu'à 3 ans, mais ça couvre à peu près cette période dont on a une trace au niveau de la mémoire, mais pas de souvenir.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce que l'on sait, grâce à un certain nombre d'études et aussi de données sur le développement cérébral, c'est que sur le dernier trimestre de la grossesse, on commence à avoir à la fois des émotions et du stress, mais aussi les possibilités d'emmagasiner des souvenirs. Par exemple, on sait que des nouveau-nés vont reconnaître des musiques ou des voix qu'ils ont connues pendant la gestation. Donc on a toutes sortes de preuves et d'études qui mettent en évidence la présence de cette mémoire, au moins sur le dernier trimestre. Et donc on commence à assimiler des expériences, et notamment, entre autres, des expériences émotionnelles agréables ou désagréables déjà au cours de cette période.
Et cette mémoire implicite, est-ce qu'on sait déterminer aujourd'hui à partir de quand elle commence? Est-ce que c'est dès l'embryon? Est-ce qu'on peut dire que l'embryon a une mémoire? Ou ça va commencer un peu, en tout cas à quel moment finalement de la grossesse ça va commencer?
Je pense que ça dépend beaucoup de comment on définit le phénomène de mémoire. C'est-à-dire qu'on voit par exemple les traces sur l'ADN, la transmission transgénérationnelle du stress laisse des traces sur l'ADN. Est-ce qu'on peut parler de mémoire à travers les générations? Voilà, est-ce qu'on appelle ça de la mémoire ou pas, en fin de compte? Il semblerait que les premiers impacts du stress in utero, ça a un impact plutôt sur la façon dont les cellules se développent. Et on sait que le stress extrême au cours du premier trimestre, par exemple, ou même un petit peu après de la grossesse, peut générer des fausses couches. Donc, c'est pas de la mémoire, mais voilà, il va avoir un impact sur les cellules et les organes en développement. On sait quand le stress est pas aussi extrême, mais quand même très marqué, que ça peut avoir un impact sur le bon développement cellulaire. Surtout dans un premier temps, puisqu'il y a une période du développement où ce qui deviendra un organe, c'est 1-2 cellules. Donc, si le stress qui survient à ce moment-là est très important, ça impacte en particulier les cellules en développement au moment où ça arrive. Et ça peut être assez délétère, que ce soit au niveau du développement physique dans un premier temps, et puis après, petit à petit, du développement du cerveau. Donc, à quel moment est-ce que l'impact de ce stress est mémorisé? C'est assez difficile de le déterminer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des premières expériences de mémoire au sens vraiment classique du terme au cours de ces derniers mois. C'est peut-être pas par hasard qu'on change de dénomination, qu'on parle d'embryon puis de fœtus, et qu'il y a des possibilités de réaction de stress, en l'occurrence chez le fœtus, et de mémoire. Mais c'est évidemment un phénomène continu, c'est-à-dire que les premiers impacts de ce qui va être vécu, ça va avoir un impact sur la façon dont le cerveau se développe, plus que sur du contenu. Donc ça affecte autant ce qui va servir à contenir la mémoire que le contenu de la mémoire lui-même. Donc c'est assez dur à penser, en fait, parce que c'est comme si on cherchait à recueillir de l'eau et qu'en même temps, on était en train de forger la gourde qu'on va utiliser pour recueillir l'eau. Ça va prendre la forme de l'expérience que l'on est en train de faire. C'est-à-dire que dès le dernier trimestre de la grossesse, le bébé se prépare en fonction des stimulations qu'il reçoit à arriver dans le monde qu'on lui annonce. C'est-à-dire qu'il a, s'il a une mère extrêmement stressée, il a toutes les raisons de se préparer à un monde qui est dangereux. Si que la mère ait des raisons ou non, des bonnes raisons, je dirais, d'être stressée, que le monde soit ou non dangereux, lui, il reçoit le message d'un monde qui est dangereux. Et donc, une mère qui a été particulièrement stressée in utero, comparée à une mère particulièrement détendue, hein, c'est que des statistiques, donc on compare les deux extrêmes. Cette mère particulièrement stressée est plus à risque d'avoir un bébé extrêmement réactif au stimuli de l'environnement, c'est-à-dire au bruit brusque, qui va pleurer davantage, qui va être plus irritable, plus difficile à calmer. C'est des statistiques, il y a toujours des exceptions, mais ça a un certain sens au niveau de l'évolution des espèces, que le bébé commence à préparer son système de stress dans la direction indiquée par les hormones de stress auxquelles il est exposé in utero, les hormones de stress de sa mère, et les stimulations qu'il reçoit, les bruits brusques font réagir le fœtus. Donc, il se prépare à un certain niveau de danger à l'extérieur.
Alors là, quand vous dites ça, Johanna, je pense à toutes les femmes enceintes que j'accompagne et qui sont très vite très stressées de vivre du stress. Donc, comment on peut évaluer ce niveau de stress et à quel moment peut-être qu'il y a jusqu'à un certain stade où il pourrait être positif, nécessaire, et puis peut-être à un autre moment, on va basculer dans quelque chose qui serait voilà, plus dangereux ou en tout cas impactant.
Alors, je propose à ces mamans de prendre une grande respiration profonde et de limiter l'impact stressant de ce qu'on vient de se dire, en gardant en tête que d'une part, ce sont des statistiques. Donc, dans les statistiques, il n'y a que des exceptions. On peut avoir des mamans très stressées qui vont avoir un bébé très zen et inversement. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des études qui mettent en évidence que c'est au-delà d'un certain seuil de stress, d'hormones de stress, que ça a un impact délétère, un impact nocif sur le fœtus, puis ensuite sur le bébé, mais qu'un minimum de stress est favorable au développement embryonnaire et fœtal. Et c'est là que c'est très difficile, c'est à partir de quand est-ce que je suis trop stressée, à partir de quand est-ce que c'est bon pour mon bébé. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le placenta joue un rôle de filtre. Il va transformer les hormones de stress de la mère en une substance qui est indemne, enfin dont qui va pas avoir d'impact sur le bébé dans une certaine limite. Si il y a un stress chronique répété ou s'il y a un stress ponctuel très marqué, il y a des risques que les capacités de filtre du placenta soient saturées et que ce stress passe la barrière placentaire et arrive dans le système du bébé. Donc c'est ça qu'on veut éviter autant que possible. Évidemment, c'est pas dramatique dans l'absolu, mais c'est le sens de toutes les recommandations qu'on fait dans nos sociétés, en tout cas aux femmes enceintes, de se ménager, de pratiquer le yoga ou d'autres approches de régulation du stress, qu'on est attentif à elles, si tout va bien, on leur laisse notre place dans le métro pour pas qu'elles se fatiguent trop. C'est aussi un impact sur le système de stress. Et j'invite vraiment les femmes enceintes qui nous écoutent à penser à accepter de recevoir de l'aide, parce que c'est pour le bébé aussi qu'elles le font, même si c'est pas forcément dans la nature de toutes les mamans d'accepter facilement de l'aide. Même si elles en ont pas nécessairement besoin, de pas attendre le moment où on en a besoin pour avoir du relais et de commencer à faire de la place à ce bébé-là. Ça prépare les choses, quoi.
Que la grossesse n'est pas une maladie, mais c'est quand même un temps particulier dans la vie qui nécessite une attention particulière.
Et puis, c'est une bonne période pour apprendre à demander du relais, à respirer, parce que ça va être encore plus nécessaire une fois que le bébé sera né. C'est encore plus intensif, surtout les premières semaines, les premiers mois, de donner cette régulation du stress au nourrisson, là où in utero, c'est quand même un petit peu plus préservé.
Du coup, pour avoir quelques repères, parce que j'imagine là, dans ce que vous nous dites, Johanna, qu'un événement unique suscitant du stress. Alors là, je pense, alors si on reprend ce que nous a dit Chloé, voilà, une fausse couche, un arrêt de grossesse précédemment, la perte d'un conjoint ou d'un parent ou d'un proche lors de la grossesse, des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on subit, qui du coup suscitent un niveau de stress très élevé. Dans ces situations, voilà, qu'est-ce que la femme enceinte peut faire pour s'apaiser?
Alors, je crois que c'est le sens de tout ce qu'on communique en préparation à l'accouchement, déjà de limiter le stress au maximum, parce que au cas où un événement comme ça arrive, on a de la marge pour éponger. Mmh. Si on est déjà au bout du bout à tout tenir à bout de bras, on va beaucoup plus facilement déborder au niveau des hormones de stress, et c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors évidemment, faut pas dramatiser, c'est pas parce qu'on a vécu un événement stressant ou une grossesse stressante que le bébé va forcément être impacté pour toute la vie. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Et puis surtout, j'aimerais retirer une partie de la culpabilité et du poids à la femme enceinte. Je crois que la société, l'entourage, le conjoint, la famille élargie, les proches, les amis, tous les gens qui entourent la femme enceinte, ont aussi leur part de responsabilité pour la soutenir, pour être particulièrement attentif à elle. On est quand même dans un état émotionnel particulier, généralement pendant la grossesse, avec une sensibilité accrue. Ça nous prépare à l'arrivée du bébé, mais c'est aussi parfois des hauts et des bas au niveau émotionnel qui sont pas forcément simples à gérer. Donc prendre soin de soi, gérer son stress, c'est aussi possible si on est soutenu. Et c'est pas un poids qui devrait reposer uniquement sur les épaules de la future maman. Donc ça veut dire aussi l'employeur, ça veut dire un engagement social, politique, ça soulève énormément de questions.
Tout ça. Oui, bien sûr, sur la manière dont on accompagne et dont on soutient, porte les femmes enceintes et comment on accueille les bébés dans notre société aujourd'hui.
Et si les perspectives d'accueil sont stressantes pour la maman, de quel mode de garde je vais trouver? Je vais être obligée de reprendre le travail dans 3 mois, enfin, toutes ces questions-là, évidemment, c'est du stress que la société surajoute, en fait, à ce contexte-là. Donc, la mère n'a pas à tout porter. Mmh. Après, on a de plus en plus d'offres, de cours de prépa à l'accouchement très variés, de yoga pour femmes enceintes, de techniques de sophro ou autres, relaxation, visualisation.
Oui, donc, tout ça, ça va être des outils de régulation du stress. Et le fait, là, ce que vous nous dites, Johanna, de réguler son stress, ça permet que si un événement extérieur particulièrement stressant arrive, on va être davantage en mesure de l'intégrer, finalement, de le traverser en limitant potentiellement l'impact qu'il aura.
Et puis, si on est entouré, on a des ressources aussi de personnes vers lesquelles se tourner, des personnes qui vont prendre soin de la femme enceinte, se soucier de son état, quelqu'un à qui parler, c'est très important. Et je trouve que les jeunes mamans en particulier témoignent souvent de la grande solitude dans laquelle elles se sont trouvées pendant leur congé parental ou leur congé maternité. Ouais. De passer la journée seule avec leur bébé qu'elles adorent par-dessus tout et en même temps de plus en pouvoir parce qu'il y a un manque de relais. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement stressantes et c'est normal. Il paraît qu'il faut un village pour élever un bébé quand même. Hein.
Donc là, tout de suite, on a parlé du stress qui est quand même un sujet qui peut, comme vous l'avez dit, Johanna, être source de beaucoup de culpabilité. Mais voilà, là, vous nous avez amené des nuances et des outils, des perspectives pour pouvoir traverser cette période au mieux. Qu'est-ce qui peut, durant cette période de la grossesse, qu'est-ce qui peut avoir, en dehors du stress, un impact sur le développement? J'imagine que tout l'environnement, tout ce que va vivre, traverser la femme, aura un impact sur son bébé à venir?
Alors, d'une façon générale, on a besoin d'un bon contexte global pour que l'embryon puis le fœtus se développe bien, donc que ce soit en termes de nutriments, d'équilibre de vie, d'hygiène de vie, de repos, etc. Il y a quand même des études particulièrement intéressantes, inquiétantes, mais intéressantes, qui portent sur l'effet des perturbateurs endocriniens sur le développement en particulier cérébral, in utero, avec un certain nombre d'études qui mettent en évidence que les bébés garçons sont beaucoup plus fragiles, enfin sont particulièrement plus fragiles que les bébés filles, parce que en fait la testostérone a un effet de de retard, enfin de ralentissement du développement cellulaire au cours des poussées de croissance qui font que les périodes de vulnérabilité sont plus grandes, puisque le même développement prend un petit peu plus de temps. Donc s'il y a du stress, on pourrait revenir à la question du stress, mais aussi une exposition à des facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens au cours de ces poussées de croissance, puisque le cerveau grandit au cours de périodes sensibles, donc il y a un moment où telle structure se développe et fait une poussée de croissance, et si à ce moment-là il y a un facteur adverse, on va dire, de l'environnement ou du stress maternel, ça risque fort d'avoir un impact sur ces cellules en développement et donc sur les fonctions cérébrales en question. Et ce, ben, le risque est majoré chez les garçons. Donc ça, je trouve que c'est un message qui est pas tellement connu, en fin de compte, alors que ça commence à être assez bien documenté. Donc peut-être qu'il faudrait particulièrement prendre soin des mamans qui attendent des garçons. Je ne sais pas, je pense que toutes les mamans méritent qu'on prenne soin d'elles, que ce soit pour la grossesse ou après. Et il me semble que c'est un facteur de préoccupation quand même à avoir en tête.
Du coup, là, Johanna, vous évoquez la question du développement et de la construction cérébrale. Du coup, durant cette période des 1000 premiers jours, comment justement le cerveau du bébé va se développer ?
Alors, globalement, le cerveau se développe de façon, pas tout en même temps, hétérogène. Il va se développer du bas vers le haut, donc les structures les plus basses, les plus proches du cou d'abord, et petit à petit les structures les plus hautes du haut de la tête à la fin. Il va se développer de l'arrière vers l'avant, et puis il va se développer de la droite vers la gauche. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la naissance, on est évidemment avec un cerveau extrêmement immature. On est probablement l'espèce qui met le plus de temps au prorata du temps de vie à avoir un cerveau à peu près mature. Du coup, ça veut dire qu'on est extrêmement dépendant de notre environnement et des cerveaux qui nous entourent, qui vont avoir des fonctions qu'on n'a pas encore. Au cours de ces 1000 premiers jours, les zones du cerveau qui se développent, évidemment, c'est les zones basses dans les tout premiers jours. Le fait de réguler sa température, hein, on couvre beaucoup un nouveau-né, on lui met un bonnet, etc. Parce qu'il ne sait pas encore tout à fait réguler sa température, ça c'est des fonctions physiologiques élémentaires. Ça assez rapidement, ça se met en route. Puis après, la zone suivante qui commence à se brancher, à se développer, c'est le cerveau émotionnel, cerveau limbique, qui s'occupe de la capacité à prêter de l'attention et la capacité à gérer ses émotions. Et il n'y a qu'à regarder la différence entre un nourrisson qui vient de naître et sa capacité à réguler ses émotions, ou plutôt son incapacité à réguler ses émotions, qui est tout à fait normale. Et l'enfant qui sera 3 ans plus tard, quand il va entrer à l'école, qu'il est capable de savoir qu'il y aura l'heure des papas et des mamans, qu'il est capable de négocier avec les camarades sur le prêt du vélo à la récré. Enfin, donc il y a vraiment toutes sortes de compétences qui sont énormes en fait en termes de régulation des émotions, qui se sont mises en place au cours de cette période. Il y a un bond en termes de développement sur cette période des 1000 premiers jours qu'on ne verra jamais au cours des années ultérieures. On ne verra jamais un bond aussi intense en si peu de temps se développer autant de compétences, et c'est vraiment lié au développement cérébral sur cette période. Donc en gros, on a surtout du développement de l'hémisphère droit jusqu'à 2 ans, l'hémisphère gauche va se développer plutôt après 2 ans. Donc l'hémisphère droit, qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement des expériences sensorielles, émotionnelles, je dirais un peu intuitives. Et l'hémisphère gauche semble plus intriqué dans des compétences verbales et une approche peut-être un peu plus rationnelle des choses. Et c'est pour ça que le langage se développe quand même essentiellement. Enfin, il y a un boom de développement du vocabulaire, en particulier aux alentours de 2 ans. Et là où ça se développe avant, mais quand même de façon très rudimentaire. Et toute cette période sensible des 1000 premiers jours va être une période particulièrement cruciale pour donc le développement de la régulation des émotions, la capacité à contenir ses émotions, à attendre pour plus tard, à tolérer la frustration, à savoir que les émotions ont une durée, qu'elles sont pas éternelles, parce que sont pas ressentir le tout petit bébé quand il pleure, il est à fond dans ses pleurs. Enfin, il peut pas savoir que ça va s'arrêter. Donc cette expérience de je peux être calmée, je sais que quand je pleure, je vais avoir du réconfort, je vais avoir une réponse, qu'elle va être efficace le plus souvent. Tout ça sont des facteurs qui vont apaiser le système de stress et petit à petit contribuer à ce que le bébé puisse développer ses propres capacités à faire ça tout seul et arriver à 3 ans à l'entrée à l'école. À l'inverse, si les circonstances sont plus adverses, là encore, comme pendant la grossesse, le stress va avoir un impact sur les zones qui sont en plein développement. Donc si je ressens du stress, si je vis trop de stress à une période où mes capacités à réguler mes émotions sont en plein développement, je risque d'avoir des difficultés à réguler mes propres émotions. Ultérieurement dans l'enfance, à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. Quand on regarde les études qui portent sur l'impact du stress au cours de ces 1000 premiers jours, qu'est-ce qu'on observe ? Qu'on va étudier l'impact du stress d'avoir été en couveuse, l'impact du stress d'avoir été in utero exposé aux attentats du 11 septembre à New York, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été bien étudié. Donc, on a des situations objectivement stressantes bien repérées. C'est pas une fiction, c'est pas... on imagine toutes sortes de choses. Il y a des faits. Et puis on étudie comment évoluent ces bébés et on se rend compte que statistiquement, là encore c'est que des statistiques, ces bébés sont plus à risque d'avoir des difficultés de régulation des émotions, des troubles anxieux, des troubles du comportement avec une tendance à l'opposition et puis des difficultés d'attention. Et évidemment tout ça, ça correspond à des zones cérébrales qui sont en développement au cours de cette période et en même temps c'est pas irréversible. On voit que les mamans qui ont le plus de capacité à se remettre elles-mêmes de ces événements qui sont aussi éprouvants pour elles sont probablement celles qui vont pouvoir aider le bébé à se calmer. Un bébé qui a perçu in utero que la vie extérieure était dangereuse, mais qui est accueilli par un environnement qui est zen, qui est calme, va apprendre à réajuster son système de stress à ce qu'il reçoit comme information nouvelle de comment est l'environnement. Il y aura peut-être un petit temps d'adaptation, mais le cerveau est encore extrêmement plastique. Il est en plein développement, c'est pas gravé dans le marbre. Et c'est encore des choses qui sont réparables, même plus tard, à l'enfance plus tardive ou à l'âge adulte. Mais en particulier chez le bébé, il y a quand même une vraie plasticité cérébrale et des capacités à réparer, à réajuster, à se réadapter à un changement d'environnement.
Donc là, par exemple, un bébé, en tout cas une femme enceinte pendant la grossesse, qui est... Alors, je vais prendre un exemple. On suspecte une maladie, par exemple, sur son bébé, et puis finalement, le bébé naît, l'accouchement se passe bien, donne bonnes conditions, le bébé est finalement, voilà, tout va bien et en bonne santé. Donc là, il y a un réajustement émotionnel, du coup, et un environnement beaucoup plus apaisé. Donc, malgré le stress vécu pendant la grossesse, in utero, il va y avoir une adaptation, finalement, qui va se faire par le bébé dans ce nouvel environnement serein et adapté.
Voilà, tout dépend si la maman et le père aussi, évidemment, l'environnement de l'enfant, a réussi à se remettre de ce stress. Alors, si il reste dans l'état d'esprit de « mais peut-être qu'il y a encore des signes où j'ai appris que, par cette expérience, j'ai appris qu'il pouvait arriver quelque chose de grave à mon bébé, que je risque de le perdre », ben peut-être je peux continuer de rester sur le qui-vive, continuer de rester sensible à la moindre manifestation qui pourrait être atypique, à surconsulter mon médecin, à aller voir le pédiatre. Donc ça dépend vraiment à quel point le système de stress des parents a réussi à s'éteindre là-dessus, à vraiment assimiler, ok, on a eu peur, mais finalement c'est fini, c'est terminé, il y a plus de risque. Il y a un risque raisonnable, comme chez tous les bébés, qu'il y ait des problèmes somatiques, mais pas plus que ça, versus dans mon corps, dans mes émotions, j'ai encore cette peur, et je continue d'être sur le qui-vive, et je communique un message de stress, de danger à ma bruit, à mon bébé.
Oui, ce que disait finalement Chloé, où au bout d'un certain moment, quand le bébé bougeait, le fait de voir votre ventre s'arrondir, voilà, ça a été des éléments assez rassurants qui ont permis une forme de régulation et donc d'apaiser le stress vécu du fait de l'arrêt de grossesse précédemment.
C'est ça. Le fait d'avoir assimilé, ok, il y a eu un risque, il faut que j'assimile ce risque par rapport à mes grossesses futures. Donc, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion pour m'adapter à mes grossesses futures ? Il peut y avoir un risque de fausse couche, notamment sur le premier trimestre, c'est quand même relativement courant. Donc comment est-ce que je me débrouille de ma prochaine grossesse et à quel point, à un moment donné, ça y est, j'ai assimilé que le risque que j'ai connu par le passé, bah, là, la situation est différente et que ça sert plus à rien de réagir par rapport à ce risque-là. Là, c'est une autre situation. C'est bon, c'est derrière moi. Alors, comment le cerveau se développe? J'évoquais tout à l'heure, en fait, qu'il se développe du bas vers le haut, de l'arrière vers l'avant, de la droite vers la gauche. Ce qui est aussi extrêmement intéressant et important à avoir en tête, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cerveau est très peu déterminé génétiquement. Alors, moi, ça m'a fait une réaction un peu de choc quand j'ai découvert ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans notre héritage génétique, on va avoir en gros un plan de cerveau avec les différentes structures qui existent, qui sont utiles, mais on n'a pas forcément le détail de comment les choses vont se développer. C'est-à-dire que le développement du cerveau est à une grande part qui est laissée à la stimulation que le cerveau va recevoir de l'environnement. C'est un peu comme si on avait un plan d'architecture d'une maison, et puis ben, en fonction du continent où on se trouve, du climat, des matériaux disponibles, on va pas construire cette maison qui a pourtant le même plan de la même façon. Ça peut être une maison qui, de l'extérieur, peut être très très différente, comme les humains sont d'ailleurs très très différents les uns des autres. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que la plupart des fonctions cérébrales, et notamment plus les fonctions cérébrales sont sophistiquées, plus elles arrivent tardivement dans le développement, plus elles sont dépendantes de l'environnement. La régulation de la température, du rythme cardiaque, la tension, c'est des fonctions très liées au bas du cerveau, au tronc cérébral. Ça se met en place dès la fin de la grossesse ou juste après l'accouchement. Ça, c'est des fonctions assez déterminées génétiquement. La régulation des émotions, ça commence à être beaucoup plus déterminé par l'influence de l'environnement. C'est des fonctions qui vont se développer pour nous permettre de nous adapter au niveau de danger de l'environnement. Donc, elles peuvent pas être... Ce serait pas adaptatif, en fait, qu'elle soit déterminée génétiquement. On va avoir un cerveau qui va se développer en fonction de la stimulation qu'il reçoit. Donc, s'il reçoit beaucoup de stimulation relationnelle ou beaucoup de stimulation corporelle ou émotionnelle, enfin, c'est ces zones-là qui va être amené à développer plus que d'autres. Là aussi, du fait de la plasticité cérébrale, c'est des choses qui peuvent se remanier. Les études les plus tristes sur le sujet, mais qui sont quand même assez parlantes, c'est des études qui portent sur des petits qui ont été en orphelinat, notamment en Roumanie, dont on examine le cerveau et dont on se rend compte que du fait des grandes carences relationnelles, émotionnelles qu'ils ont subies, ont des parties du cerveau atrophiées, là où elles devraient être normalement développées à ce moment-là. Le message d'espoir, c'est que ces enfants, quand ils sont placés dans un environnement émotionnellement, relationnellement stimulant, reprennent leur développement cérébral et que c'est quand même en grande partie récupérable. Donc, on a plein de données qui montrent comment le cerveau va se développer là où il est stimulé, en réponse à un certain type d'environnement, et est particulièrement intéressé et stimulé par l'environnement relationnel. On a un cerveau qui s'intéresse beaucoup aux autres humains. On a un bébé qui, dès la naissance, est capté par les visages et réagit à l'expression émotionnelle des visages, donc qui est vraiment câblé pour recevoir de la relation et recevoir des émotions. Et ça, ça nous montre de quoi le bébé a besoin pour bien développer son cerveau. En fait, il va aller chercher là où il a besoin. Donc non seulement on est très dépendant de notre environnement pour faire des choses qu'on ne sait pas encore faire, notamment se réguler au niveau émotionnel, mais cet impact de l'environnement va directement cibler la façon dont le cerveau se développe, puisqu'il se développe en réponse à ce qu'il reçoit.
Du coup, Johanna, par rapport à ce que vous nous dites, dans la régulation, l'apprentissage de la régulation des émotions, la manière dont on va materner, accompagner, donc le maternage proximal ou distal, va avoir un impact sur la manière dont le cerveau de l'enfant va se développer.
Oui, tout à fait. Il y a des études assez touchantes qui mettent en évidence que les mamans qui caressent leur ventre sur la fin de la grossesse, en particulier ce que décrivait Chloé tout à l'heure, de répondre aux signaux du bébé dans l'abdomen quand il bouge, etc., statistiquement, sont des mamans qui ont des bébés plus calmes, qui pleurent moins. Donc, on commence déjà, finalement, même in utero, à forger cette relation sécurisante, à préparer le bébé au monde qui l'attend, et à amorcer un début de capacité à réguler ses émotions. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le système de stress, alors particulièrement chez le bébé et chez les tout-petits, il est, on peut surtout le réguler par l'intervention sur le corps, mais même chez les adultes en fait, hein, tout le réseau nerveux du système qu'on appelle du nerf vague, qui régule une partie du système de stress, c'est 80% d'informations qui vient du corps au cerveau et ça véhicule que 20% du cerveau au corps. Alors en plus, chez le tout petit, où le cerveau est quand même pas encore tout à fait mature, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions corporelles pour l'aider à se calmer. Et la plupart des gens savent que quand on berce un bébé, qu'on lui propose la suction, enfin, c'est des choses qui vont le calmer beaucoup plus que si on lui dit « Mais mon chéri, il n'y a pas de danger, tu peux dormir. » Évidemment, on ferait jamais ça à un bébé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprend cette régulation d'abord par des expériences de sécurité, des sensations corporelles agréables que petit à petit, le bébé apprend aussi à reproduire, à retrouver, qu'il lui apprenne à emmagasiner le fait que l'environnement est prévisible, qu'en cas de détresse ou d'inconfort, il aura une réponse, il va recevoir cette proposition de se calmer, etc.
Donc là, dans ce que vous nous dites, Chloé nous disait voilà avoir beaucoup porté, pris dans ses bras ses bébés dès qu'ils pleuraient, c'est quelque chose qui est donc fondamental.
Oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel. C'est essentiellement par là que le système de stress est câblé, en fait. Par là qu'on a un accès au stress du bébé. Donc le porter, le bercer, le mettre en peau à peau, qu'il sente la chaleur, l'odeur, la voix. Dans un deuxième temps, les regards. Quand il commence à grandir un petit peu plus, les échanges de regards, la prosodie, donc le ton de la voix, la musicalité de la voix. Tout ça sont des choses qui vont avoir un impact très important pour aider le bébé à se réguler, à se calmer.
Donc j'imagine aussi que c'est la répétition de ces expériences qui va permettre cet apprentissage au bébé. Que se passe-t-il? Quelles empreintes ces expériences vont avoir? Est-ce qu'il y a une forme d'empreinte, de mémoire de ces expériences pour le bébé?
Oui, effectivement, les premières formes de mémoire, on évoquait ça tout à l'heure, ça va être d'abord comment ces expériences de sécurité forgent mon système de stress, par exemple, tout comme comment les expériences corporelles forment mon rapport à mon corps. Donc, toutes ces premières expériences qu'on fait et puis qu'on fait ensuite de façon répétée, elles stimulent des réseaux de neurones, en fait, tout simplement, au niveau cérébral. Et en fonction du niveau de stress qui est associé, ça a un impact plus ou moins important sur le développement cellulaire. Mais plus une expérience est répétée, plus les réseaux de neurones qui correspondent, enfin, qui sont activés par cette expérience, vont avoir tendance à se consolider, un peu comme... si on voulait forger un chemin, en fait, un petit sentier où les gens passent régulièrement dans une prairie, ben, petit à petit, à force de passage, ça va générer ce sentier. Peut-être que si on commence à passer de façon encore un petit peu plus intensive, ça va marquer un sillon encore un petit peu plus tracé, et on peut parler d'une certaine façon d'autoroute neuronale au bout d'un moment, tellement ça va vite, c'est des automatismes qu'on apprend à développer, et c'est aussi ce qu'on appelle la mémoire procédurale, c'est des façons de faire qui deviennent oui, automatiques, qui se font toutes seules. Le bébé apprend une certaine façon de réagir, apprend que quand il gazouille d'une certaine façon, il va davantage faire réagir sa mère que quand il se comporte d'une autre façon. Et c'est vrai avec cette mère-là et ce bébé-là, et peut-être que dans une autre dyade, ça va se passer autrement. Il y a un renforcement direct, en fait, de ce qui fonctionne, et puis une inhibition de ce qui fonctionne pas et qui est désagréable.
Tout à l'heure, je demandais à Chloé, du coup, comment s'était passée sa propre naissance. Et donc, les expériences qu'elle a pu faire en tant que bébé, est-ce que ces expériences, quand on devient parent, sont réactivées? Ces autoroutes neuronales sont réactivées?
Alors, c'est assez probable parce que c'est quoi finalement le modèle qu'on a de traiter un bébé? On en a dans notre environnement, on a peut-être été exposé à des façons de traiter des petits frères et sœurs, par exemple, directement quand on était enfant. Donc, on a une multiplicité de modèles qui vont alimenter ce que c'est qu'un bébé et comment on s'en occupe. Mais on va quand même beaucoup puiser dans l'expérience qu'on a eue nous-mêmes d'être traité bébé. Et quand on a soi-même un enfant ou qu'on s'occupe d'enfants, sans le savoir, en fait, ces réseaux de neurones-là qui contiennent cette information en mémoire implicite, c'est-à-dire que c'est pas des souvenirs, c'est pas des choses qu'on peut se remémorer consciemment, mais c'est quand même une forme de mémoire, des associations, des choses avec lesquelles on est familier, avec lesquelles on est à l'aise, comme le toucher, comme je veux dire l'instinct entre guillemets, mais en fait c'est pas que de l'instinct, c'est aussi de l'acquis en fonction de la façon dont on a été traité. L'instinct de porter, de bercer, de, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de parler à un bébé, de gagatiser dans le sens positif du terme. Enfin, c'est il y a même s'ils n'ont pas eu d'enfants, ils savent le faire. Et puis
mais on peut émettre l'hypothèse que du coup on a agi de cette manière-là avec eux quand eux-mêmes étaient un bébé et que ça a laissé cette trace-là.
Alors c'est pas la seule expérience qu'ils vont avoir de l'exposition à comment on traite un bébé, mais c'est probablement une expérience assez importante. En tout cas, c'est la toute première et c'est probablement la plus durable puisque c'est quand même l'expérience subjective. En tout cas, ce qu'on observe en psychothérapie, c'est que les personnes qui ont vécu des événements difficiles au cours de cette période, et qui ont des difficultés avec leurs propres enfants sur cette période, quand on va traiter ça en psychothérapie, qui sont plus calmes, plus tranquilles à l'idée de ce qu'ils ont vécu qui a pu être difficile dans leur période de bébé, ce qu'on observe assez directement, c'est une capacité à mieux prendre soin du bébé et de leur propre bébé, je veux dire, dans la réalité externe, et en particulier une meilleure capacité à décoder les signaux du bébé. Je prends un exemple un peu extrême, mais un bébé qu'on a beaucoup laissé pleurer, ça risque, pas toujours, c'est des stats, mais ça risque de donner à un parent qui est peut-être un petit peu plus sensible qu'il faudrait aux pleurs de son bébé et qui supporte pas du tout que son bébé pleure, ou au contraire qui reproduit la même chose, c'est-à-dire qui a complètement verrouillé sa détresse et qui du coup n'arrive pas à décoder la détresse de son bébé et à réagir de façon suffisamment sensible et rapide par rapport aux besoins réels de son bébé. Ça, quand on travaille dessus en psychothérapie, généralement c'est des choses qui se lèvent et on observe des parents qui sont de nouveau plus disponibles, plus capable de percevoir leur bébé pour ce qu'il est avec ses besoins à lui sans que leur propre expérience difficile interfère. Ce qui est évidemment terrible, c'est que comme c'est de la mémoire implicite, c'est difficile de s'en rendre compte avant de l'avoir traité. Plus il y a du stress précoce, plus on est dans une situation où il y a une vulnérabilité potentielle, et plus il y a vraiment une exposition au danger, avec notamment des parents qui sont perçus comme effrayants ou dangereux par le tout petit. Plus là, c'est là, de façon plus caractérisée, une situation à risque. Donc, les situations de vulnérabilité, c'est j'étais exposée au stress, j'ai pas eu tout à fait le réconfort et le soutien dont j'avais besoin pour me remettre du stress. Si je rencontre des situations dangereuses ultérieures dans ma vie, des situations traumatiques notamment, je suis moins bien équipée pour y faire face, donc je suis plus vulnérable à l'adversité. Mais si j'ai la chance de rien rencontrer de terrible, je peux m'en sortir très bien. Si j'ai eu des expériences de confrontation au danger de la part des personnes qui devaient me calmer, par exemple un parent qui est indisponible parce qu'il passe son temps sur son écran et qu'il me laisse me déréguler, il est absent, c'est inquiétant, il me répond pas, au-delà d'un certain seuil, il y a beaucoup de parents sur leurs écrans, mais vraiment le parent est complètement absorbé parce qu'il va mal et qu'il cherche à se gérer comme il peut. Ou le parent qui est dépassé, stressé, qui crie sur son bébé, qui a beaucoup beaucoup de difficultés à l'aider à s'apaiser, c'est un parent qui va être perçu comme effrayant. Et ça peut être une situation là pour le coup de risque de développement de symptômes ultérieurement. Là encore, c'est pas gravé dans le marbre, mais on peut tout à fait soutenir ses parents et ses bébés pour que ça évolue favorablement.
Mais là, vous nous dites bien tout l'enjeu de cette régulation émotionnelle qui a un impact sur la construction de l'identité.
Oui, tout à fait.
On a parlé de la grossesse. Peut-être on pourrait faire un petit focus sur la naissance et l'accouchement. Est-ce que, alors Chloé nous disait que pour elle tout s'est bien passé. Alors là, je pense évidemment à toutes toutes les patientes que j'accompagne qui elles ont eu des accouchements particulièrement difficiles. Il y en a qui disent que la naissance est traumatique. Voilà, quelle empreinte, quel est l'impact de la naissance, de ces modalités sur le bébé.
Alors il semblerait que le bébé soit inondé d'hormones de stress au moment de la naissance, beaucoup plus que nous au cours d'expériences stressantes en tant qu'adultes. Donc ça semble assez objectivé que c'est une expérience physiologique très stressante pour le bébé. C'est pas pour rien, enfin on le prépare, c'est une épreuve, on le prépare à arriver au monde. Et donc il va avoir un premier besoin de régulation une fois qu'il est arrivé. Ok, ça y est, t'es en sécurité, l'épreuve est finie, on a réussi, ouf! Comment est-ce qu'on va pouvoir aider ce bébé à se réguler de cette épreuve-là? Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact potentiellement du stress, c'est qu'évidemment, si la mère elle-même a vécu un accouchement qui est traumatique, elle est aussi inondée d'hormones de stress. Elle a elle-même à se récupérer de cette épreuve, à réaliser. Ça
donc
y est.
Elle n'est pas disponible pour son enfant pour le faire.
Elle peut l'être, mais elle a une double tâche, en fait. Il faut déjà qu'elle arrive à se calmer. Il faut que son environnement arrive à la calmer. Là encore, elle n'est pas toute seule. Donc, c'est aussi le rôle du conjoint, de la conjointe, de l'environnement familial, d'aider la mère à se remettre de cet accouchement qui a pu être traumatique et d'aider son bébé à se remettre. Donc là, évidemment, le corps est au premier plan. Un bon massage vaut mieux qu'un long discours. Un bon câlin aussi, que ce soit vis-à-vis de la jeune maman ou du bébé. Donc on va avoir une double tâche. C'est aider le bébé à se remettre, à arriver sur terre, changer d'environnement, et puis aider la maman à se remettre, elle aussi, du stress éventuel plus ou moins important, plus ou moins traumatique, de son accouchement. Ce dont on s'est rendu compte aussi, ces études du docteur Rousseau, qui est un gynécologue belge, c'est que plus la mère rapporte d'événements traumatiques durant sa grossesse, ou d'événements stressants même durant sa grossesse, plus elle a un bébé qui a des manifestations de stress marquées à la naissance. Donc on sait que ces mamans-là, il va falloir être particulièrement vigilant à, si possible, penser à leur mettre leur bébé dessus tout de suite, à favoriser cette connexion qui va diminuer le stress chez tout le monde, parce que l'ocytocine, c'est la lutte contre les hormones de stress et réciproquement, malheureusement. Donc, si on est très stressé, on a du mal à s'attacher. Parce qu'en fait, on est programmé, et si on a eu un accouchement extrêmement stressant, la nature nous a programmé à nous préparer à la perte. Aujourd'hui, avec la médecine, ce bébé-là, heureusement, le plus souvent, il survit. Mais la mère, elle reste programmée à ne pas s'attacher à ce bébé qui est né dans des circonstances extrêmement stressantes. Donc, il va falloir faire notre maximum pour que le corps de la mère, le système nerveux de la mère, puisse emmagasiner l'information de « non, il est là, il a besoin de toi, il est bien présent ». Et donc, faire beaucoup de peau à peau, par exemple, ça peut être très utile. On vit dans notre société un contexte dans lequel on fait grandir nos tout-petits qui n'est pas du tout optimal par rapport à ce pourquoi notre espèce est programmée. Normalement, on a besoin d'un entourage. On disait tout à l'heure, il faut un village pour élever un enfant. C'est pas juste un dicton, c'est vraiment quelque chose de vrai au niveau de l'évolution de l'espèce. Dans l'histoire de l'évolution de notre espèce, on n'a jamais eu deux personnes pour élever un enfant. Donc, c'est normal que ce soit une situation stressante, encore plus pour les familles monoparentales. Mais déjà, juste à deux, c'est normal que ce soit stressant. Donc, j'ai envie de dire que tous les parents devraient bénéficier de plus de soutien. On est programmé pour recevoir plus de soutien, plus de relais que ce qu'on vit actuellement dans notre société. Donc pas de complexe, c'est normal. Si on se sent stressé, dépassé, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire ou qu'on peut rien faire. Je pense que c'est aussi en réponse à ça qu'il y a toutes sortes de structures de soutien à la parentalité qui se développent, qui peuvent répondre à des parents en très grande difficulté, mais qui visent aussi à soutenir les parents, j'ai envie de dire, ordinaires, qui ont des difficultés ordinaires, parce que dans notre société, c'est objectivement stressant, éprouvant de s'occuper d'un tout petit. Donc c'est normal d'avoir besoin de, surtout quand c'est le premier, on n'a pas d'autre expérience ou assez peu, c'est normal d'avoir besoin de l'expérience d'autres parents, de partager, de recréer ce qu'on aurait eu si on avait vécu avec toute la famille à la maison, avec tout l'entourage des mères, des grands-mères, des tantes qui ont déjà l'expérience du bébé, par exemple, qui vont transmettre, qui vont modéliser, enfin, on va voir faire. Donc de rejoindre des groupes de parents, quel que soit le moyen. Et avec les réseaux sociaux, tout est possible, mais aussi des endroits, des cafés pour parents, des endroits associatifs où on va pouvoir rencontrer d'autres parents, être soutenu dans les stratégies éducatives, les premières questions. Hein, quand au niveau vraiment éducatif, c'est vrai que les premiers défis, finalement, il y a les premiers mois, le sommeil, etc. Mais les premiers défis, c'est quand l'enfant commence à bouger un peu plus, à explorer, à toucher, à dire non, à développer aussi une personnalité un peu plus propre, un peu plus perceptible. Il y a toutes sortes de questions qui se posent. Parfois, on a envie de faire différemment de ce qu'on a reçu aussi. Et on sait ce qu'on veut pas faire, mais on sait pas forcément comment faire autrement. Donc devoir faire autrement, de lire, de rencontrer, de discuter, c'est quand même des ressources extrêmement précieuses. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a un tel boom des associations et des consultations de soutien à la parentalité et de tous les livres portant sur le sujet, parce qu'il y a un vrai besoin de sortir de la solitude et de trouver des ressources. Donc vraiment, pour banaliser ce besoin, il y a pas de honte, c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'aide, de peut-être se questionner sur pourquoi on a tant de difficultés à en demander. Ça reste globalement quelque chose de honteux, d'humiliant, de je devrais tout réussir à faire tout seul, je devrais me débrouiller, je devrais aimer mon bébé, je devrais pas pleurer, je devrais bien dormir, il devrait bien dormir.
Ça fait beaucoup de devrais.
Ouais, mais on arrive surtout avec le premier, je trouve, avec toutes ces représentations d'Épinal, toutes faites. Et donc rencontrer d'autres parents, peut-être même dans l'idéal avant l'accouchement, peut-être que ça baisse un peu les attentes, écouter ce podcast, d'autres choses encore. Enfin, c'est le sens de ce type de ressources quand même.
Et pour les femmes qui vivraient ou qui ont vécu ce qu'a vécu Chloé, c'est-à-dire un arrêt de grossesse, est-ce que en amont d'une grossesse, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour se réguler, pour arriver dans la grossesse finalement, voilà, le plus sereinement possible, suite à un événement qui a été difficile.
Ouais, bien sûr, si que ce soit en rapport avec une grossesse ou pas, si on sent qu'il y a des choses qui nous vulnérabilisent, ça vaut toujours la peine de prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire de travailler à être le plus régulé possible, à être le plus tranquille possible, parce qu'il y a le moins de facteurs de stress et de réactivation de choses qui sont pas résolues dans notre histoire. Plus on a travaillé ça en amont, mieux c'est évidemment pour le système nerveux du bébé à naître. Et vous saurez sûrement le nom de cette association qui soutient les mamans qui ont
Maman
vécu une fausse couche.
Ouais, voilà. Dont on parlait. Les fausses couches, c'est plutôt, il y a AGAPA. Maman Blue, c'est plutôt autour de la difficulté.
C'est ça. Matérielle. J'avais en tête une association qui accompagnait les mamans spécifiquement ayant vécu une fausse couche. À savoir que c'est quand même quelque chose qui est assez banalisé, alors qu'en fait, c'est souvent vraiment éprouvant. Donc c'est normal d'avoir des difficultés à s'en remettre, je pense. Mais il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être ce type d'accompagnement, ça peut être un accompagnement plus psy, plus classique ou orienté trauma. Alors, de traiter, c'est pas nécessaire d'y passer 10 ou 20 séances. Il y a des techniques de traitement du trauma qui permettent de travailler là-dessus assez rapidement, donc c'est un peu dommage de se priver.
Est-ce que du coup vous pouvez nous dire quelques mots justement sur l'ICV, l'intégration du cycle de vie ?
L'ICV, c'est une technique de traitement notamment du trauma, mais aussi des histoires d'attachement douloureuses, des histoires précoces douloureuses. Donc, c'est deux façons de travailler différentes, mais qui sont reliées à l'ICV. Cette approche, elle est basée sur ce qu'on appelle les neurosciences affectives, en jargon technique, c'est-à-dire les données issues de l'étude du développement cérébral, et notamment aussi les données issues de l'étude du cerveau traumatisé. Donc, qu'est-ce qu'on observe chez quelqu'un qui a été victime de trauma, c'est que son cerveau continue de réagir comme si la situation passée, traumatique, était encore vraie, et donc d'être en train de détecter dans son environnement tout type d'indices qui pourraient lui montrer qu'il se retrouve de nouveau dans cette situation. C'est l'exemple typique de l'accident de voiture dont je vous parlais tout à l'heure. La personne monte dans une voiture, ça déclenche son système d'alarme où, attention, voiture égale danger. Donc, il n'a pas digéré que l'accident est terminé, il n'a pas intégré... Oui, il y a une situation qui est dangereuse, mais qu'est-ce qui était dangereux exactement? C'est pas être dans une voiture, c'est trop général, ça. C'est pas une bonne conclusion tirée de l'expérience. Ça permet pas de prédire de façon appropriée le danger futur. Donc, se remettre d'un événement traumatique, c'est exactement ça. C'est de pouvoir en tirer des conclusions utiles pour la prédiction du danger futur. Là, ça n'a pas pu se faire pour toutes sortes de raisons. Là aussi, ça sert à rien de se culpabiliser. Le cerveau, il a ses limites. Il y a des événements qui sont objectivement très difficiles. Mais fausse couche, ça en fait partie, entre autres. Les accouchements traumatiques aussi. Même si c'est statistiquement relativement courant, c'est pas pour autant que c'est facile de s'en remettre. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, donc, notamment avec l'ICV, en relançant cette sensation du temps qui a passé. Donc, aider le cerveau à intégrer que c'est terminé, à resituer les choses dans le temps. Donc, si on veut travailler sur, par exemple, un accouchement traumatique qui a eu lieu il y a un an, on va demander au patient de réaliser une liste de souvenirs, mettons un souvenir par mois, donc une douzaine de souvenirs, qui se sont déroulés depuis l'accouchement jusqu'à aujourd'hui, donc dans l'ordre chronologique. Et on va amener le patient à retraverser cette liste chronologique d'événements de façon répétée au cours de la séance pour l'aider petit à petit à avoir cette sensation du temps qui a passé, donc à recréer ce que le cerveau fait habituellement pour digérer les événements plus ou moins difficiles de la vie quotidienne, et donner cette sensation du temps qui a passé, d'un événement qui est vécu comme terminé, qui n'est pas vécu comme encore en train d'arriver là, ici et maintenant, et d'être encore une menace. Donc ce qu'on observe au cours de la séance, c'est une séance unique, hein, quand on traite un trauma, c'est en une seule fois, c'est que petit à petit, à l'évocation, par exemple là, de l'accouchement traumatique, la patiente devient de plus en plus tranquille, de plus en plus capable d'entendre le récit, puisqu'on lui refait le récit qu'elle a pu nous faire à un moment donné de la séance, quand elle s'en sent capable, on va restituer les grandes lignes de ce récit, et puis la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après, le lendemain matin, par exemple, la première visite de la meilleure amie ou je ne sais quoi à l'hôpital, et puis la sortie de la maternité, et puis peut-être quelque chose 15 jours, un mois plus tard, enfin bref, on va raccorder cet événement traumatique qui est en fait un peu comme un électron libre qui contient cette réponse de stress, qui contient cette information, tout ce qui ressemble à ça, c'est encore dangereux, on va raccorder ça pour en quelque sorte l'inclure dans le tissage de la vie et que ce soit plus quelque chose qui se promène et qui est cette force capacité à s'imposer comme un danger encore aujourd'hui, mais de vraiment sentir que c'est fini. C'est ce travail-là qu'on va faire en ICV, et on peut travailler de toutes sortes de façons avec cette liste de souvenirs qui va varier d'un événement à l'autre, d'une chose à l'autre. Et cette liste de souvenirs, elle peut commencer juste après la naissance, inclure les premiers stades de développement. Donc là, on va pas avoir de souvenirs, mais on va décrire à la personne comment un enfant se développe, comment probablement il s'est développé, il a probablement commencé à sourire, à gazouiller, à pouvoir se mettre à quatre pattes, à se mettre debout, à dire peut-être ses premiers mots, faire ses premiers pas, faire des petites phrases, commencer à dire non, des crises de colère, peut-être entrer à l'école maternelle. Donc tous ces stades, c'est des choses qu'on aura tous plus ou moins traversées avec des petits changements des fois dans l'ordre. Et on enchaîne avec la suite de la vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on... ce dont on s'aperçoit, c'est que là où les gens ont parfois vécu des choses stressantes, notamment au cours de cette période de vie ou ultérieurement, petit à petit, l'évocation de ces stades de développement et puis de l'histoire de vie va devenir de plus en plus tranquille. Et en parallèle, dans la vie, on voit des gens réagir beaucoup plus tranquillement aux stimulations de stress de la vie quotidienne pour ce qu'elles sont et pas en étant chargé en plus d'un certain nombre de situations de stress de la vie passée non résolue.
Donc c'est une approche pour faire le lien avec ce dont vous nous parliez tout à l'heure sur la mémoire implicite qui permet justement de travailler sur ces mémoires et de venir les apaiser.
Tout à fait, c'est une des façons qu'on va pouvoir utiliser pour traiter les traumas, les carences précoces, l'insécurité de l'attachement qu'on a pu traverser bébé. Donc la plasticité cérébrale, c'est jusqu'à l'âge adulte.
Comme vous nous l'avez bien expliqué, Johanna, l'enfant fait un bond de géant dans son développement cérébral durant ses 1000 premiers jours de vie. Et donc, cette période est fondamentale dans l'apprentissage de la régulation des émotions et la construction de l'identité. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Chloé, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a soutenu, inspiré, nourri?
Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres pour me préparer à l'arrivée de mes enfants. On m'en avait recommandé un que j'avais lu pour ma première grossesse qui s'appelait « Bébé, dis-moi qui tu es ». Je saurais pas vous dire le nom de l'auteur.
On retrouvera,
oui.
On donnera.
Mais que j'avais trouvé assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on m'expliquait comment fonctionne un nourrisson. Enfin, autre que les expériences, évidemment, de l'environnement familial, mais j'ai trouvé que c'était intéressant.
Merci beaucoup, Chloé. Johanna, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander?
C'est sur la deuxième partie des 1000 premiers jours, celle qui finalement me semble peut-être poser le plus de difficultés aux parents, cette période du terrible two, donc la période d'opposition, les conflits en fait qui commencent, la négociation qui commence. Un livre que j'ai trouvé très intéressant, très imagé, très accessible. J'ai tout essayé, d'Isabelle Filioza. Ça, j'ai trouvé vraiment qu'il avait beaucoup, beaucoup de qualités. Et il illustre vraiment les stratégies alternatives qu'on peut développer et aussi les situations difficiles. Donc, on s'y retrouve quand même assez facilement. Et comme c'est illustré en bande dessinée, c'est parlant et c'est accessible vraiment très, à tous, même les gens qui n'aiment pas particulièrement lire. Je pense que c'est très accessible.
Et moi, je vais recommander alors tout d'abord l'application des 1000 jours et puis votre livre, Johanna, plus particulièrement sur « À la rencontre de son bébé intérieur » qui permet vraiment aussi d'approfondir tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Un très grand merci, Chloé, d'être venue partager avec nous votre vécu, ce que vous avez traversé ces 1000 premiers jours avec chacun de vos enfants, même si pour le deuxième, c'est encore en cours. Merci beaucoup, Johanna Smith. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, formatrice et autrice.
Merci de m'avoir invitée, avec plaisir.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.